Le magazine Femina de VOA Afrique.
D'autres pays, le Gabon et le Cameroun, font face à des vagues de crimes contre des enfants, tandis que le Burundi et les États voisins enregistrent plusieurs cas d'assassinats contre les personnes atteintes d'albinisme. Des crimes, dit-on, associés à des pratiques de sorcellerie. En effet, depuis plusieurs années, les albinos sont victimes d'un trafic d'organes transfrontalier. Ils sont victimes par ailleurs de discrimination dans plusieurs régions. Pourquoi ces atrocités se produisent-elles encore? Et qui sont les responsables de ces crimes? Des questions que de nombreuses familles sont en droit de se poser, tandis que le mot « impunité » ne cesse d'être prononcé par des acteurs de la société civile qui s'évertuent à dénoncer l'insoutenable, sans grand écho de la part des autorités, nous diront-ils. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Nathalie Barge avec vous. Et la très belle voix que vous entendiez, c'était celle de Fénose, chanteuse, auteure, compositrice burkinabé. Allez, je le dis à la québécoise, on féminise le terme. C'était sa chanson de l'album Albinos. Elle réside actuellement en Allemagne. Et nous tentons de la joindre au téléphone car elle est l'une de nos invitées. Nous avons donc également un autre invité en ligne à Libreville, capitale gabonaise, Georges Mpaga, activiste et figure de proue de la société civile qui lutte depuis de nombreuses années contre les crimes dits rituels, dont les victimes sont généralement des enfants. Merci beaucoup, Monsieur Mpaga, d'être avec nous.
Merci Nathalie.
Alors,
je suis en ligne.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais peut-être faire un petit signalement. Le sujet dont nous allons parler est relativement choquant. Donc ça, c'est pour nos auditeurs, nos auditrices. Si vous avez des petits-enfants à côté du poste radio, il serait peut-être préférable de les éloigner. Alors, mi-février, une fillette albinos de 5 ans a été retrouvée morte et démembrée dans la province de Kirundo, dans le nord-est du Burundi. Des hommes armés ont attaqué son domicile et frappé ses parents avant de l'enlever. Cet enfant est la 19e personne atteinte d'albinisme tuée au Burundi depuis août 2008. Le dernier cas remontait toutefois à mai 2012, lorsqu'une adolescente avait été tuée dans les mêmes conditions près de Bujumbura. Alors, la police avait mis fin à cette série de meurtres dans les zones frontalières avec la Tanzanie. Après l'arrestation en 2009, puis la condamnation d'une dizaine de personnes pour assassinat et tentative d'assassinat d'albinos. Mais toutes s'étaient évadées en décembre 2011, rappelle l'AFP. Alors ça, justement, c'est un sujet dont nous allons parler, hein, cette sorte d'impunité finalement. On fait un petit rappel, hein, les albinos souffrent d'une maladie génétique caractérisée par une absence de pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Alors, pour parler d'une manière générale de ces crimes rituels, il faut savoir que ils sont en hausse, en fait, hein, selon divers observateurs, notamment au Cameroun, hein, depuis 2015, ces crimes rituels sont en hausse. L'on se souvient d'une affaire à Tchang au Cameroun, où une vingtaine d'hommes d'affaires, hein, c'est pas rien, une vingtaine d'hommes d'affaires avaient été arrêtés justement pour avoir pratiqué un de ces crimes rituels à l'encontre d'un enfant. Donc voilà, Monsieur Georges Mpaga. Dans un premier temps, donc,
oui,
les crimes rituels. Hein. Oui. Je voudrais rappeler quand même, bon, vous êtes très connu dans la région, hein, vous êtes lancé dans ce combat, malheureusement, parce que votre propre enfant a été victime d'un tel crime. Et vous avez dernièrement, il me semble, reçu une très grande récompense par rapport à votre travail. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous rappeler quel est ce prix et nous dire finalement qu'est-ce que cela change dans votre lutte ?
Bon, dans un premier temps, je tiens à préciser que je n'ai jamais, Georges Mpaga, bien sûr, est un acteur important, comme vous l'avez souligné, de la société civile au Gabon. S'agissant de la personne qui a reçu le prix en matière de lutte contre les crimes rituels et qui avait été, si vous voulez, à l'origine de la mobilisation contre ce phénomène, c'est M. Elvis Ebang, président de l'association de lutte contre les crimes rituels au Gabon. Son fils, Ebang Eric, fut assassiné le 5 mars 2005 avec un ami à lui, Aboubacar Ibrahim.
J'ai fait une erreur. Alors justement, Monsieur Mpaga.
C'est vraiment de toute la lutte contre les crimes rituels. Bien entendu, Georges Mpaga était celui qui a soutenu la naissance de l'association de lutte contre les crimes rituels et le développement de la campagne qui s'est mise en place contre ce phénomène. Bon, le phénomène, comme vous le savez, constitue la forme la plus abjecte de violation des droits de l'homme. D'après les informations que nous avons, cette pratique, si vous voulez, cette forme de criminalité est fondée, d'après les analyses et les rapports émanant des organismes engagés comme le RLDG, comme l'association de lutte contre les crimes rituels. C'est une prétendue croyance selon laquelle le sacrifice rituel qui consiste au prélèvement du sang et de certaines parties du corps des victimes, notamment les yeux, les sourcils, les oreilles, le sexe, la langue, les lèvres, les morceaux de peau, permet d'offrir aux commanditaires final, la jeunesse, la santé, la richesse, la réussite, l'élévation dans la sphère politique. Voilà un peu la description de ce phénomène. Donc, c'est une abjection, si vous... C'est une inversion, si vous voulez, des valeurs morales. On croit qu'en assassinant une femme, en assassinant un enfant, c'est surtout les enfants et les femmes qui sont les principales victimes. En prélevant ces organes, on acquiert une puissance, une jeunesse politique.
Oui, alors justement.
On est dans la sphère politique. Donc voilà un peu le phénomène. Et généralement, les crimes rituels sont considérés au Gabon comme la forme la plus abjecte, la plus immorale de violation des droits de l'homme. Les gens sont mutilés, attachés. C'est une pratique de sorcellerie politique. Les gens sont enchaînés dans des formes de messe noire avec un gourou qui exécute, qui prélève la personne. Lorsque la personne élève les cris, il paraît, d'après eux, que la personne rentre en contact avec les esprits supérieurs, avec les génies.
Oui, mais etc. Justement, Monsieur Mpaga, s'il vous plaît, je ne voudrais pas trop qu'on s'étende justement sur ces croyances fallacieuses, parce que, comme vous le savez très bien, la lutte aujourd'hui, c'est justement une lutte de sensibilisation, de faire comprendre à la population, aux gens, que toutes ces croyances ne sont que des croyances et que, bien sûr, elles sont totalement fallacieuses. Donc il est peut-être préférable de ne pas trop nous étendre sur la question. La question, c'est comment éradiquer ce type de phénomène et comment sensibiliser la population d'une manière générale. On va parler de cela un petit peu plus en détail.
Ok, donc je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ouais, la chanteuse Fénose, qu'on essaye de joindre, malheureusement, je ne sais pas pourquoi nous ne parvenons pas à la joindre. Encore une fois, je rappelle peut-être à nos auditeurs, nos auditrices, d'éloigner les tout-petits du poste radio. Ces derniers mois, le Cameroun a enregistré des assassinats d'enfants, des corps d'enfants en bas âge ont été retrouvés amputés de certains organes. Le dernier cas en date est celui d'une toute petite fille de 2 ans retrouvée sans tête. Ce crime a suscité la colère de la population à Douala. Écoutons ce reportage de notre correspondante Ide Sandrine Yamga.
Son visage angélique et son doux sourire font le tour des réseaux sociaux. C'est que les internautes restent consternés par les circonstances du décès de la petite Evan Depe Kamgang, âgée de 2 ans seulement. Portée disparue au quartier Makepe-Misoke dans le 5e arrondissement de Douala, capitale économique du Cameroun, la fillette a été retrouvée 4 jours plus tard dans un cours d'eau situé non loin du domicile de sa tante où elle avait été enlevée par des inconnus. La dépouille de la petite Eva n'avait plus de tête. Les seuls éléments qui avaient permis de la reconnaître étaient sa robe de couleur rose et sa paire de tennis. Au milieu des déchets, elle a été repérée par un adolescent de retour des classes.
Deux élèves en rentrant des classes, l'autre voulait aller au champ, se mettre à l'aise. Et en partant, en s'appuyant, maintenant il a vu le corps de l'enfant sans tête. Les mouches étaient en train de poursuivre. Il a fui maintenant aller alerter les voisins d'apporter. Ils sont maintenant descendus.
Difficile pour Nikès, la jeune maman, de contenir ses larmes face au reste de sa fille.
Ma femme me dit que maman, je veux manger, je vais retirer la nourriture, je reviens, je ne trouvais plus l'enfant. Je ne trouvais plus l'enfant, personne n'a vu la moto, personne n'a vu la voiture, personne n'a vu l'enfant. L'enfant a disparu. L'enfant a disparu.
Ce qui est arrivé reste inexplicable pour Judith Massom, la tante de Eva qui avait l'habitude de passer des jours avec sa petite nièce. Elle est loin d'oublier ce samedi après-midi qui s'est avéré fatal.
Le samedi-là, elle est venue, ça n'a même pas fait 30 minutes. Elle s'est assise juste au portail. Ça ne fait même pas 30 minutes. On se tourne, on appelle Eva. Eva n'est plus là. Bon, on commence à chercher Eva partout dans le quartier. On a cherché Eva partout. Même jusqu'au lieu là où on l'a trouvé dans l'eau, là, on était même là-bas. On a fait 3 tours là-bas. Le jour où on a dit qu'on a trouvé Eva dans l'eau, nous, on n'était même pas sûr que c'est notre bébé que nous, on cherche.
L'enquête qui a été ouverte par la police n'a pas encore livré ses résultats. L'image reste insoutenable aussi pour des mamans qui ont dû revoir leurs habitudes de vie avec leurs enfants.
Ça nous fait mal, ça nous choque. Couper la tête d'un enfant de 2 ans, c'est...
J'ai peur, parce qu'on peut venir aussi faire la même chose qu'on a fait sur l'autre, là, sur mes enfants. Moi-même aussi, j'ai peur. Je ne peux même pas laisser l'enfant à la maison comme ça, là, aller que derrière pisser maintenant.
Oh non, on ne doit même pas. Maintenant, pour laisser là, rien que l'enfant ici, là, pour aller au marché, c'est quelque chose maintenant qui dérange. Nous, on a peur.
Dans la société civile également, les crimes sur les enfants appellent à une remise en question de tous les acteurs, surtout des gouvernants. C'est l'analyse de Marlène Mvoutou, actrice de la société civile.
Chaque fois qu'on parle de crimes, c'est consternant. Mais quand on parle de crimes sur des fillettes, sur des enfants, c'est poignant. Ce phénomène prend une telle ampleur dans notre pays qu'il serait effarant de le traiter à la légère. Il faut une réflexion profonde.
Les circonstances du décès de Eva ont suscité la compassion au Cameroun, dans la ville de Douala en particulier. Et des parents ont organisé une marche pour dire non à ces crimes d'enfants. Une initiative étouffée par les autorités administratives qui ont évoqué le climat sécuritaire actuel. Ces parents se sont limités finalement à une messe en la mémoire de tous les enfants assassinés.
Et de Sandrine Douala, Cameroun, Voix de l'Amérique.
Voilà, alors, monsieur Georges Mpaga, j'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à ce qui a été dit dans ce reportage par notre correspondante, que cette marche a été étouffée par les autorités. Alors, vous connaissez bien ça, il me semble, au Gabon. Vous avez également organisé, hein, avec monsieur Ebong, justement, plusieurs marches pour lutter contre ces crimes, mais parfois elles ont également été plus ou moins étouffées, non?
Vous savez, le phénomène des crimes rituels, en réaction à ce que la collègue du Cameroun vient de dire, repose sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est que les crimes rituels sont liés, si vous voulez, aux acteurs politiques, sont liés à ceux qui ont une responsabilité politique. Ils se manifestent régulièrement lors des élections, avant les élections et pendant les élections. Les commanditaires, on les trouve généralement dans la sphère politique, parmi les ministres, les députés, les sénateurs, ceux qui ont une responsabilité dans la sphère politique. Pour ce qui est du Cameroun, malheureusement comme au Gabon, lorsqu'on s'engage contre le crime rituel, on met en cause généralement ceux qui tournent dans l'oligarchie politique. Le crime rituel est organisé autour d'une association de malfaiteurs. C'est des gens qui ont des connivences. si vous voulez, sur l'affaire politique et sur l'affaire judiciaire. Donc on arrive à une impunité des commanditaires. La justice fait son travail, mais les dossiers n'aboutissent jamais. Donc nous déplorons vraiment la passivité des gouvernants, le fait que lorsqu'on se lève contre ce phénomène, on a affaire aux policiers, aux gendarmes, à une justice qui est complètement paralysée, à la complicité des gouvernants. Parce que les principaux commanditaires sont dans la sphère politique.
Oui, mais monsieur... Monsieur Mpaga, justement, à ce niveau-là, parce que l'on sait tout de même que ces trafics d'organes sont plus ou moins transfrontaliers, hein, ça touche quasiment tout le continent. Il y en a également au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, Togo, Côte d'Ivoire, etc. Donc, à ce niveau-là, est-ce que ce n'est pas également l'affaire, finalement, d'une police internationale ? Est-ce que Interpol ne se penche pas sur ce type de crimes qui sont bien plus nombreux qu'on ne l'imagine, en réalité ?
Bon, moi, je pense qu'il faut d'abord, dans cette perspective, je pense qu'il est nécessaire peut-être de décréter le crime rituel au titre des crimes contre l'humanité. Parce que c'est la forme la plus abjecte. Les gens sont dépecés, assassinés. C'est innommable, Nathalie Barge, ce que subissent les enfants et les femmes qui sont victimes vraiment de ces criminels, de ces sans foi ni loi. Il faut une réponse internationale. À Libreville, en 2006, une réunion a été organisée sous l'égide de l'UNESCO, effectivement, pour réfléchir à une réponse globale de l'Afrique française face au phénomène des crimes rituels.
Allô, monsieur Mpaga?
Le cas des crimes que nous constatons au Gabon, ils sont liés aux acteurs politiques. Ils sont liés à la sorcellerie politique.
Oui, mais alors,
on croit qu'un assassin, les choses sont claires. Ils sont organisés, planifiés par les hommes politiques.
Alors, monsieur Mpaga, justement, vous parlez beaucoup des hommes politiques. Alors bon, on sait que les hommes politiques sont des gens très puissants sur la planète, évidemment. Mais cependant, il y a quand même des hommes politiques qui se retrouvent devant la CPI ou devant des juges un petit peu partout sur cette terre. Est-ce que l'on a déjà entendu, il me semble, moi, pas à ma connaissance, mais peut-être que cela est déjà arrivé, est-ce qu'il y a déjà eu des jugements justement d'hommes politiques relativement importants en Afrique par rapport à ce type de crime, ou non ?
Bon, on a constaté qu'au Gabon, un certain nombre de députés et de sénateurs ont déjà été emprisonnés. Dernièrement, dans le sud du Gabon, à Tshibanga, un ancien député a été mis sous les verrous pour avoir commandité les crimes rituels. Je pense qu'il faut nous battre. Le premier défi pour lutter efficacement contre les crimes rituels, c'est l'indépendance de la justice. Parce que les magistrats font un travail formidable. Un magistrat courageux avait inculpé plusieurs hommes politiques hautement placés au Gabon. Mais ce magistrat a été sanctionné. Il a été relevé de ses fonctions parce qu'il a osé s'attaquer vraiment à l'organisation criminelle, à l'un des criminels rituels les plus emblématiques du Gabon qui a été dénoncé par la presse. Je remarque au Gabon que la presse fait un travail formidable de dénonciation. Les associations également font un travail de dénonciation. Monsieur Ebang, Elvis, l'association de lutte contre les crimes rituels, le collectif de lutte contre les crimes rituels, le RBG font un travail impressionnant. Nous avons des procès actuellement. Un professeur d'université qui avait dépecé le 17 décembre 2011, son étudiant au bord de mer de Libreville a été condamné à 25 ans de prison. Ça, c'est le combat que nous menons. Nous soutenons les victimes. Nous soutenons les
Donc, il y a des avancées. Donc,
la justice est paralysée, Nathalie.
Donc, monsieur Mpaga,
il faut une réponse internationale face aux criminels rituels. Je pense que le rôle des ONG, vraiment, c'est de travailler, de coaliser au niveau de l'Afrique centrale, au niveau international, afin que le crime rituel soit considéré au titre des crimes contre l'humanité. Voilà le combat que nous menons pour vraiment rendre justice à toutes les victimes, les centaines de personnes qui sont sauvagement assassinées chaque année au Gabon et par centaines dans les pays d'Afrique centrale.
Alors, donc, vous avez effectivement cité cette sorte de cercle vicieux de l'impunité quand on a un juge qui n'est pas en mesure de faire son travail comme il l'entend. Finalement, ça entretient effectivement le système de l'impunité. Alors, je voudrais à ce propos en profiter pour saluer justement l'ancien procureur de Ruigi au Burundi, Nicodème Gaimbare, qui s'est longtemps battue justement contre ces crimes perpétrés contre les personnes atteintes d'albinisme. Et il avait participé également à des émissions, le magazine au féminin de VO Afrique, et il recueillait à l'époque, même chez lui, plusieurs enfants atteints d'albinisme. Donc en fait, tout ça, c'est pour dire que effectivement, comme vous, comme au Gabon, comme certainement au Cameroun, il y a des associations, il y a des juristes, il y a des juges, il y a des procureurs qui, en effet, tentent de faire leur travail et de lutter contre ces injustices. Maintenant, monsieur Mpaga, parce que cette lutte, elle implique également de faire entendre aux gens, parce que c'est des croyances très, très profondes, ça, ces massacres qui sont faits pour ces crimes rituels. Qu'est-ce qui est entrepris exactement au niveau des gouvernements? Bah tiens, dites-moi, au niveau du gouvernement gabonais, pour contrer ce type de croyances fallacieuses.
Bah, moi, je pense que rien n'est fait. Il n'y a pas de politique gouvernementale, bien sûr. Il y a une sorte d'évolution au niveau de la justice. Il y a une loi qui vient d'être... la dernière réforme du code de procédure pénale qui intègre la question du crime rituel. Mais cela n'est pas insuffisant. J'ai, par exemple, une information à vous donner. Oui. Il y a un groupe de jeunes, une vingtaine de jeunes étudiants et collégiens qui sont aujourd'hui emprisonnés à Lambarini. Et dans leur travail, dans leur association de malfaiteurs, ils utilisaient par le charme, si vous voulez, ils arrivaient à capter des jeunes filles, des jeunes garçons, et après les avoir drogués, ils étaient dépêchés dans la forêt de Lambarini, dans une forêt à une soixantaine de kilomètres de Lambarini. Cette association a été démantelée. Il y avait des jeunes de 18 ans, de 20 ans, des étudiants. Et quand ils ont été interrogés, ils ont indexé les hommes politiques de la localité de Lambarini.
C'est-à-dire?
Ces jeunes-là, y compris en prison, mais les commanditaires continuent à narguer la population. Chaque jour, on découvre des cadavres dans la ville de Libreville. C'est incroyable. Et c'est dans les plages qu'on ramasse les cadavres, dans les forêts, etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, une jeune fille ne peut pas monter dans un taxi si elle n'est pas assurée que vraiment elle a de la sécurité dans ce taxi. Parce que les taximans aussi, à Libreville, à Port-Gentil, à Oyem, dans le Gouévindo, surtout dans le Gouévindo, c'est vraiment la capitale des crimes rituels. Le Gouévindo, c'est la province, ce nord-est du Gabon, où vraiment se situe vraiment l'épicentre des crimes rituels. On assiste à près de 200 morts chaque année de crimes rituels.
Mais c'est des chiffres énormes, ça.
Donc je pense que la première réponse la plus importante, que c'est vraiment la réponse judiciaire. Ensuite, il y a la sensibilisation. Alors nous faisons des campagnes de sensibilisation justement pour dénoncer, justement pour inciter les populations à se mobiliser contre ce phénomène. Bien sûr, vous avez parlé des facteurs socioculturels, mais dans nos coutumes bantous, on n'a jamais véhiculé vraiment le crime rituel comme moyen de promotion sociale. Ce sont des pratiques liées vraiment à la sorcellerie politique, tout simplement. Mmh. C'est une inversion des valeurs morales. On croit qu'en assassinat,
oui,
un enfant, bon, en prélevant ses organes, voilà, on devient puissant. On
oui,
a
vous l'avez dit déjà. Oui,
on
monsieur.
A une capacité
oui.
de captation des populations.
Oui, oui. Précisons
des
bien. Oui.
Je pense que c'est une inversion des valeurs. Donc il y a un travail à faire, un travail de sensibilisation, de mobilisation. Et lors, nous avons prévu à cet effet, lors de la prochaine présidentielle, vraiment signer une charte avec tous les candidats à l'élection présidentielle pour lutter, dénoncer les crimes rituels. Nous pensons qu'il faut agir maintenant de façon préventive, parce que l'élection présidentielle, c'est dans 6 mois, et là, ça va être l'hécatombe si la société civile ne se lève pas.
Merci beaucoup, Georges Mpaga, pour avoir participé à cette émission, le magazine au féminin de VO Afrique. Un grand merci également à Josèle Morissin, à la production, pour cette émission. À très bientôt, au revoir.
Au revoir, Nathalie.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. Your eyes.